Alors bonjour André Bellon, vous êtes président de l'association pour une constituante. Et puis vous êtes avec nous pour parler donc de la constitution actuelle ou précédente des constitutions de la République française. Ce qui intéresse notre émission, c'est de voir ce qu'a apporté chaque constitution par rapport à l'autre. Donc à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de 1789, et ensuite la première constitution de 1791, et voilà, et ainsi de suite, ce que chaque constitution a apporté de différent ou de grandes différences par rapport à la précédente.
Savoir que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'on oublie souvent de dire « et du citoyen », n'a été mis que dans le préambule de la Constitution qu'après la Libération, en 1946. Jusque-là, elle existait, on la placardait sur les murs éventuellement, mais elle n'était pas dans le texte constitutionnel. Ensuite, il y a, suivant les moments, suivant les constitutions, suivant les rapports de force, suivant la vie publique et suivant les forces politiques, un certain nombre de principes qui y sont ou qui n'y sont pas. Bon, par exemple, dans les premiers textes après la Révolution de 1848, il y avait le droit au travail. Bon, ça n'y est plus aujourd'hui. Peut-être qu'il faut réfléchir sur ce genre de choses. Le droit social.
Pour parler toujours du préambule, en fait, il y a certains principes qui restent philosophiques ou moraux, mais qui n'ont pas été appliqués tout de suite. Il n'y avait qu'une certaine partie de la société, donc essentiellement la bourgeoisie, qui pouvait élire ses représentants. Ensuite, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les personnes de couleur ou de religion différentes n'avaient pas les mêmes droits. Et tout cela, qui est censé être... appliqué ou présent dans les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'était des principes qui sont restés théoriques, mais sans être appliqués.
Alors, si on revient sur l'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait espérer, c'est quelque chose d'assez lent. C'est-à-dire que les évolutions, elles ne se font pas du jour au lendemain, on ne passe pas du tout noir au tout blanc. Il y a des étapes. Alors la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'abord elle dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire que la notion de l'égalité est une notion juridique. Parce que jusque-là, il y avait des droits différents suivant que vous apparteniez à la noblesse, au clergé, au tiers-état, etc. C'est-à-dire qu'on fonde un droit unique. Et ça, c'est effectivement un progrès tout à fait important. Pas pour autant qu'on a créé l'égalité sociale dans les rapports sociaux entre les individus. Mais il n'y avait plus qu'un droit. Donc ça, c'est quand même un progrès historique. Alors ensuite, sur le plan politique, il est parfaitement exact que dans les premiers temps de la Révolution, ce qu'on a appelé le suffrage, c'est-à-dire le fait qu'on passait d'un système de pouvoir absolu concentré sur le roi, un système, c'est-à-dire de souveraineté qui avait été transféré du droit à la nation. Hein, on se souvient de la phrase de Bailly dans la fameuse séance, vous savez, au Mirabeau, le représentant du roi vient leur dire, vous avez entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Et Bailly, qui était le président potentiel, de la non moins potentielle Assemblée nationale, lui répond « Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. » Donc il pose bien le problème de la souveraineté qui passe du roi à la nation. Ça, c'est un changement tout à fait fondamental. Le problème ensuite, c'est la nation désigne les pouvoirs et donc ses représentants. Comment ? Et dans un premier temps, ils décident que ça sera par élection, mais au suffrage censitaire, c'est-à-dire les plus riches. Il y a la phrase célèbre de Camille Desmoulins disant « Avec ce système, Jean-Jacques Rousseau n'aurait pas eu le droit de vote ». Et ça, c'est un système qui se maintient jusqu'en 1792, c'est-à-dire jusqu'au renversement de la monarchie. Le roi est renversé. Il y a une insurrection populaire qui prend les Tuileries d'assaut, et le roi, à partir de là, est emprisonné. D'où l'élection d'une nouvelle assemblée, qu'on appellera la Convention, et celle-là, non plus au suffrage censitaire, mais au suffrage universel. Alors, reste la question, effectivement, que vous évoquez de savoir si tout le monde y est représenté. Là, sur les religions, il n'y a aucun problème. En revanche, il n'y a pas le droit de vote des femmes. En tout cas, elles n'étaient pas élues, ça c'est certain. C'est une assemblée d'hommes.
Elles ne pouvaient pas élire.
Et uniquement d'hommes. Sur la question des hommes dits de couleur, il y a une première abolition de l'esclavage qui est faite en 1794, sous l'impulsion d'un certain nombre de conventionnels. Cela étant, la question avait été posée dès l'origine de la Révolution. Et en particulier dans la fameuse nuit du 4 août, c'est-à-dire celle de l'abolition des privilèges. Que les Noirs soient considérés comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de distinction de couleur. Mais ça n'avait pas été suivi d'effet. Mais la question est posée très tôt. Et il y a une première abolition de l'esclavage en 1794, qui malheureusement est remise en cause par Napoléon, qui lui rétablit l'esclavage, ce qui donne lieu à tous les événements qu'on connaît, en particulier à Saint-Domingue, la révolte de Toussaint-Louverture, etc. Donc il y a eu en France deux abolitions de l'esclavage, effectivement, celle dont on parle tout le temps en 1848, mais la première dont on parle moins en 1794.
Personnellement, je considère que peut-être le plus grand événement ou le plus grand changement ensuite dans la Constitution, c'était la séparation de l'Église et de l'État.
La séparation de l'Église et de l'État, c'est sous la Troisième République.
Oui, la Troisième, pardon.
1905. Je pense que là aussi, il faut regarder les problèmes dans la Révolution. Il est vrai que sous l'Ancien Régime, le pouvoir, c'était un pouvoir absolu, donc concentré sur le roi, mais un roi de droit divin. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir séparation entre Église et État, puisque le pouvoir procédait du roi qui lui-même était roi, comme on disait. Il avait l'onction divine. Voilà. Donc la séparation était impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que dès l'origine, Louis XVI, dans 1789 déjà, n'est plus, dès la première constitution, n'est plus roi de France, mais roi des Français. C'est-à-dire que sa souveraineté ne procède plus du divin, mais de la nation. Cela étant, même s'il y a l'idée qu'il y a une liberté religieuse absolue, ce qui n'existait pas auparavant, il n'y a pas séparation des églises et de l'État, puisqu'aussi bien il y a ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. C'est-à-dire qu'on demande aux prêtres d'être au fond des fonctionnaires. Donc il n'y a pas du tout séparation. Mais il y a certaines tentatives sous la Convention, en particulier sur ce qu'on a appelé la convention thermidorienne, c'est-à-dire après le renversement de Robespierre, pour faire une séparation Église-État. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a des tentatives. Et cette question de la séparation va continuer depuis l'origine de la Révolution jusqu'en 1905, où là on tranche définitivement. Non, rien n'est jamais définitif, mais on tranche légalement par la loi de séparation des églises et de l'État. Oui.